Oui.
Nous avons vu la dernière fois comment nous situer devant une situation angoissante, inédite, qui nous dépasse. Nous allons aborder aujourd'hui comment se situer devant une situation plutôt révoltante, qui nous hérisse, que nous vivons comme un affront. C'est un phénomène qui devient d'ailleurs récurrent en cette période où nous sommes. Une période un peu ténébreuse où nous avons du mal à voir nos frères et sœurs. Alors je donne la parole au prophète Michée. Le fidèle a disparu du pays, plus de juste parmi les hommes. Tous sont à l'affût pour répandre le sang. Chacun traque son frère au filet. Le meilleur d'entre eux est devenu comme une ronce. Le juste est pire qu'une haie d'épines. Au jour annoncé par tes sentinelles, tu es intervenu. C'est maintenant leur confusion. Ne croyez pas l'un de vos proches, ne vous fiez pas à un ami. Car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Et le prophète Isaïe dit aussi des choses un peu similaires. Car la méchanceté brûle comme un feu qui dévore épines et ronces et enflamme les taillis de la forêt, tandis que s'élèvent des colonnes de fumée. Par l'excès de la colère du Seigneur de l'univers, le pays est ébranlé, le peuple devient comme la proie du feu, nul n'épargne son frère, on taille à droite et on a encore faim, on dévore à gauche et on n'est pas rassasié, chacun dévore la chair de son bras, Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm dévore Manassé, ils s'unissent contre Juda, mais avec tout cela sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Alors, il semble bien que les temps messianiques, les temps eschatologiques, cette époque un peu particulière où Dieu en personne revient, l'époque d'aujourd'hui donc, je pense, où le Seigneur est en train de revenir, soit marquée par une difficulté à endiguer la colère qui est en nous. Et nous nous dressons les uns contre les autres, et nous revendiquons, et nous entrons en procès, et cela prend des proportions à l'échelle de familles entières, et de pays qui se déchirent entre eux. Comme le dit le prophète Michée, nous devenons des ronces et des haies d'épines, chacun. Et ce qui fait que les autres à notre contact vont se piquer, se griffer. On va tous se piquer mutuellement et se griffer quand on se rapproche les uns des autres. Devant ce carnage, que fait le Seigneur lorsqu'il revient? On peut imaginer le Seigneur avec sa sainteté, ce brasier dévorant qui l'environne. Il met le feu à toutes ses ronces. Et par exemple, Jésus, lorsqu'il est venu, a fait cela également et il l'a annoncé dans Luc chapitre 12. Il dit lui-même, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, la mère contre la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère. Voilà, il s'agit d'un signe des temps dont notre Seigneur Jésus parle, notamment dans son discours sur la fin des temps, à la fin des 3 évangiles synoptiques. On trouve ça dans la première partie de son discours où il parle de la fin des temps. C'est celle sur le début de ce temps difficile. Il appelle ça le début des douleurs de l'enfantement. Vous savez, dans le discours sur la fin des temps, il y a une première partie qui est le début des douleurs. C'est une partie plutôt de durcissement progressif et de préparation. Et une deuxième partie où on a un durcissement vraiment plus fort avec des fléaux beaucoup plus importants. Des maladies beaucoup plus... Enfin voilà, tous les fléaux s'amplifient. Jésus nous dit, par exemple, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Donc il fait écho aux prophéties qu'on a lues ici, puis il y en a d'autres du même genre dans l'Ancien Testament. Il est dit par exemple dans le prophète Isaïe, si je prends un troisième exemple, au chapitre 3, « Les gens se molesteront l'un l'autre, chacun son prochain, le gamin se dressera contre le vieillard, et l'homme de rien contre le notable. » Ce qui montre que dans ces temps un peu particuliers, même les personnes que d'habitude on respecte, étant donné leurs conditions, eh bien, on prendra l'habitude, cette mauvaise habitude de les mépriser, voire de les piétiner. Donc la question, c'est quand on vit un litige en face d'une autre personne avec qui on est en profond désaccord, dans quel contexte est-ce qu'on peut considérer que notre cause est juste et qu'il nous faut nous dresser contre la personne. L'image de se dresser est vraiment biblique. Se dresser, ça veut dire rentrer dans une bataille contre quelqu'un ou contre un groupe d'individus. Dans une première partie, on va parcourir des scènes bibliques dans lesquelles des personnages se dressent les uns contre les autres pour collecter des éléments de réponse de cet engrenage de violence. On verra que pour chacune des personnes ou de ces groupes humains qui se dressent, la Bible nous raconte un péché qui précède, un désir de vengeance qui naît, et des personnes qui finissent par passer à l'acte. Voilà, il y a une série d'imperfections, un désir de vengeance qui va s'entretenir, bouillonner de plus en plus, et les personnes vont passer à l'acte. En deuxième partie, on va balayer des justes qui se dressent, afin de trouver quelles peuvent être les bonnes raisons de se mettre en mouvement quand on se sent heurté, quand on sent qu'il y a une colère qui naît en nous, une colère qui normalement doit déboucher sur des bonnes choses si on l'utilise de la bonne manière. Et le fait que la sainteté de Dieu qui revient nous touche aussi les justes, en leur donnant une effusion d'Esprit Saint qui va les enflammer d'amour, qui va leur montrer comment ne pas se prendre les pieds dans les ronces, on va dire ça comme ça. En fait, les justes qui vont cultiver la guérison du désir de vengeance, qui essaie de prendre racine en nous, d'essayer de brûler d'amour, pour notre propre peuple, pour Dieu. Et on dira quelques mots sur David, le roi David, en fait, qui est un modèle quand il s'agit de se battre contre sa propre colère. Alors, première grande partie, les personnes qui se dressent pour faire la guerre. Alors, première sous-partie, je vais parler de Caïn, dans Genèse chapitre 4. Caïn voit que le Seigneur tourne son regard vers son frère Abel et vers son offrande, mais que le Seigneur détourne son regard de lui-même et de son offrande. Il en est très irrité, son visage est abattu, et Dieu vient parler en personne à Caïn, il se déplace pour parler à Caïn personnellement, et il lui dit « Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, mais ton péché te désire dans ce cas-là. Mais toi, domine-le. » Mais malgré cela, il attaque son frère lorsqu'ils sont dans les champs, il le tue, et lorsque le Seigneur lui demande « Où est ton frère Abel ?» Il a l'impertinence de répondre « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dans cette scène, il y a trois éléments qui retiennent mon attention. Le fait que Caïn soit très irrité, c'est-à-dire qu'il fait une observation, et il va percevoir ce qu'il voit comme une injustice, donc ça le met en colère. Le deuxième élément, c'est que son visage est abattu, il boude, en somme, en fait, il montre des signes extérieurs de son amertume, des signes qui montrent qu'il est désormais coupé d'une certaine fraternité avec ceux qui l'entourent, notamment son frère. Il y a une bouderie, un visage abattu. Troisièmement, il est préoccupé, non du bien-être de son frère, mais de lui-même. Ça se voit parce qu'il répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est une expression de la bouderie, c'est-à-dire « Je n'arrive plus à voir les autres, je suis prisonnier de quelque chose de noir en moi. Et ce que je vois à l'intérieur de mon cœur, c'est de l'obscurité. » Et il y a cette petite phrase du Seigneur, du coup, c'est des tuyaux qu'il va lui donner. C'est Caïn, en faisant le bien, c'est-à-dire en travaillant, en mettant ton cœur à l'ouvrage, en te réfugiant dans ton travail, en rendant service peut-être, ta colère va s'apaiser d'elle-même et ton visage va se détendre. Donc change-toi les idées en faisant des choses belles. Voilà, si tu agis bien, ne te le relèveras-tu pas? C'est ça que ça veut dire. Réfugie-toi dans l'action, dans le fait de faire des choses, dans l'agir. L'agir, ça va dissiper, je dirais, le fait de tourner en boucle sur ton obscurité, quoi. Le deuxième tuyau que lui donne le Seigneur, c'est qu'il lui dit, en somme, le désir de vengeance, c'est une idée que tu as dans un coin de ta tête, comme un chien qui est posté devant ta porte. Et si jamais, quand il se présente, tu ne dis pas « je pardonne » ou j'aime mon frère, ou ce qui va se passer, c'est que dans un moment de faiblesse, cette porte de ton cœur va s'ouvrir et ce chien va t'attraper et tu vas passer à l'acte. En fait, ce type d'acte affreux, le meurtre par exemple, ou des péchés graves, sont toujours précédés d'un, je dirais, de prémices, d'un avertissement en fait. C'est, on va avoir une idée qui va nous submerger de plus en plus. Les personnes suicidaires, par exemple, c'est quelque chose qui... en fait, quand on est au courant de personnes qui vont nous dire « je suis tenté par », c'est comme un chien qui est tapis à notre porte, et ça veut dire « attention, prends des moyens », ça peut être des moyens très simples, comme une phrase qu'on va répéter pour contrecarrer ce chien enragé, mais il y a d'autres moyens, c'est de se faire aider, c'est de changer les idées, de ne pas rester seul, bien sûr. En tout cas, voilà ce que lui dit le Seigneur. Alors, j'ai une parabole pour vous. Parabole d'une mère qui vient chercher ses enfants à la sortie de l'école. Son fils aîné lui tend une petite fleur qu'il a trouvée sur la cour. Elle est un peu abîmée, mais sa maman l'accueille avec un sourire appuyé et une caresse sur la joue de son enfant. Puis sort de la classe le fils cadet. Il saute au cou de sa maman et lui tend lui aussi un présent. Il s'agit d'un bricolage fait en classe. Cela fait presque une semaine que l'enfant s'applique, sous les conseils avisés de sa maîtresse, à assembler chaque élément avec justesse et à en peindre les moindres détails afin d'en faire un véritable chef-d'œuvre. Et la maman de s'extasier à chacune des phrases de son fils, durant les quelques minutes que dure le trajet retour de l'école. D'après vous, est-ce que la mère a été injuste avec le fils aîné en ne lui manifestant son merci pour la petite fleur reçue que durant ces 2 secondes? Est-ce que le fait que cette mère n'ait dit un merci de tout son cœur pendant ces 2 secondes, c'est une injustice vis-à-vis du deuxième qui a eu les éloges de sa mère pendant plusieurs minutes? Eh bien, le Seigneur, je pense, fait de même avec nous. Il ne me semble pas que le fait qu'il se détourne du présent de Caïn signifie qu'il ne le regarde pas, mais en fait, il passe moins de temps à se complaire dans ce présent que dans celui de son frère Abel. C'est ce que sous-entend le texte, et la tradition juive aussi va dans ce sens. Abel, lui, il a mis tout son cœur dans cette offrande, il donne les prémices. Dès qu'il y a les premiers fruits, c'est ça qu'il donne. Il va faire une offrande, je ne sais plus si c'est les fruits ou les bêtes qu'il fait Abel, mais voilà, il donne ses premiers fruits, en fait. Les premières choses qu'il arrive à obtenir. Alors le Seigneur exerce sa pédagogie, il veut sans doute non exciter un sentiment d'injustice, mais faire grandir chacun. Et puis il vient, comme il est inquiet, il vient en personne parler avec Caïn lorsqu'il voit que celui-ci affiche une tête d'enterrement. Et Caïn passe à l'acte. Le Seigneur, bien sûr, est affligé de ce crime, et il va exercer sa pédagogie à nouveau avec Caïn en plaçant sur lui un signe pour qu'il ne soit pas frappé. C'est-à-dire que le Seigneur veut que, plutôt qu'il se fasse tuer et qu'il soit puni, il va mettre un signe sur lui. Alors, c'est probablement une lèpre ou une difformité physique, quelque chose, afin que son aspect repoussant inspire aux autres peut-être de la pitié, mais aussi une vive aversion pour le meurtre, et pour qu'il porte sa faute aussi, qu'il y ait quelque chose qui lui rappelle, qui l'aide à faire réparation. Et le Seigneur dit la phrase suivante, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » C'est-à-dire que Dieu prend la défense de celui qui s'est dressé contre les autres. Il y a ce côté assez paradoxal. Dieu avertit, Dieu va donner une punition, on peut dire ça comme ça, mais qui a une vertu pédagogique normalement pour lui et pour les autres. Et il va dire, « Attention, je mets un décret de mort, on va dire, ou de punition sur ceux qui s'en prendraient à celui-là. » Petite partie numéro 2. J'avance dans le livre de la Genèse, chapitre 4, où on parle de Lamec, qui est le dernier descendant de Caïn que la Bible nomme. Lamec, c'est le premier à se marier avec une deuxième épouse. Avant, on se mariait avec une épouse, lui, il va dire, ben moi je prends 2 épouses. La Bible nous montre aussi que sa famille invente la vie nomade, ce qui n'existait pas avant, les instruments avant, la métallurgie, et nous dit la tradition juive, l'art de tisser. Voilà, il a une famille qui a à la fois des grâces, et à la fois peut-être une fragilité, si on peut voir le fait de perdre un peu de vue l'unité du mariage, on va dire ça comme ça. Alors Lamech, on va voir qu'il se dresse, le texte est très laconique sur lui, et il va monter d'un cran dans la violence. Il fait à ses deux femmes cette déclaration plutôt osée, que l'on nomme parfois le chant du glaive, puisqu'on l'imagine fort bien avec un glaive en main, maintenant que les armes destructrices viennent d'être inventées. Il leur dit, « Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lamech, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. » Il va donc utiliser le geste de miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire le fait d'avoir suspendu le jugement sur son ancêtre, qui avait fait un crime grave. Le Seigneur avait suspendu le jugement pour l'amener à la repentance, mais il va utiliser ce principe-là pour des intérêts personnels, en amplifiant cette loi. « Je m'autorise à commettre la violence, mais rien ne pourra m'arriver, puisque c'est un raisonnement a fortiori un peu mal placé. » Moi, je pense que c'est une montée dans la violence, parce qu'il va occulter complètement la difficulté que vit son ancêtre. Il va faire comme si Caïn était reparti les mains dans les poches et que rien ne lui était arrivé, en fait. Et il ne voit pas que Caïn, c'est d'abord quelqu'un qui a été frappé par une souffrance, quelque chose destiné à lui faire comprendre, voilà, et qui va être une difficulté, une maladie qu'il va porter, le regard des autres qu'il va porter, il regarde pas ça du tout, lui. Il prend les choses de manière isolée, en fait. Il enlève les circonstances qui entourent ce qui s'est passé pour son ancêtre. Troisième petit 3, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 34, Siméon et Lévi et les violences commises à Sichem. Le livre de la Genèse nous raconte une histoire terrible autour de Dina, cette jeune femme qui est en fait la sœur des fils de Jacob. Dina, la fille que Léa avait donnée à Joseph, sortait pour retrouver les filles du pays. Donc, c'est-à-dire qu'elle allait faire la fête à l'occasion d'une célébration à Sichem. C'est ça que ça veut dire. Sichem, fils de Hamor le Hivite, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Il s'attacha de tout son être à Dina, fille de Jacob, il se prit d'amour pour la jeune fille et regagna sa confiance. Sichem s'adressa à son père, Hamor, et lui dit « Prends-moi cet enfant pour femme ». Par suite, la famille de ce Sichem, qui est désormais éperdument amoureux de Dina, va tout faire pour racheter cet acte terrible. Ils vont payer une lourde dot pour que Sichem se marie à Dina. Ils vont circoncire tous les hommes de leur famille, donc ils vont quand même assez loin en essayant de compenser ce qui a été fait. Et la suite du texte nous montre que Siméon et Lévi se dressent. Or, le troisième jour, alors que les hommes étaient souffrants, c'est-à-dire qu'ils étaient encore dans les douleurs suite à la circoncision, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, entrèrent l'épée à la main dans la ville à coup sûr et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au tranchant de l'épée Hamor et son fils Sichem, ils reprirent Dina de la maison de Sichem et en ressortirent. Les fils de Jacob s'en prirent aux blessés, ils pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leurs sœurs. Ils s'emparèrent de leurs petits, de leurs gros bétail, de leurs ânes, de ce qui était dans la ville, dans la campagne. Ils capturèrent toutes leurs richesses, tous leurs enfants, leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qui était à la maison. Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, cananéens et périsites. Nous ne sommes qu'un petit nombre. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre. Je serai exterminé, moi et ma maison. » Et Siméon et Lévi répondirent, « Devait-on traiter notre sœur en prostituée ?» C'est horrible, hein, on est d'accord. Donc le texte nous montre plusieurs choses. Il nomme une série d'imperfections, c'est-à-dire des péchés dont la gravité s'accentue au fur et à mesure. Il y a l'imprudence de Dina, qui fait la fête, le viol de Sichem, qui ne contient pas ses pulsions, la fraude de la famille de Dina, c'est ce que le texte dit dans des passages que je n'ai pas lus, mais qui, par esprit de vengeance et puis par moquerie, oblige toute cette famille à payer une lourde dot et à se faire circoncire pour avoir une chance d'être exaucé, d'être pardonné. Les violences extrêmes commises par Siméon et Lévi, qui vont se lâcher complètement en exterminant un certain nombre de personnes, qui ne contiennent pas leur violence. C'est donc une escalade, une spirale de violence dont on ne sort pas, car il n'y a pas de, il n'y a personne à un moment donné qui va pardonner pour sortir de cette spirale de violence. Deuxième élément, Siméon et Lévi ne regardent aucun des gages de paix et de repentance qui viennent de la famille de Sichem. Ils gardent froidement ce constat en tête. Il y a un viol frappant notre sœur qui est membre de notre famille. Toute la famille doit payer. Il fait l'inverse, en fait, de ce que fait le Seigneur, qui va détourner les yeux du péché des hommes pour les amener au repentir. Et c'est ce que font nos anges gardiens, c'est ce que fait la Vierge Marie au ciel. Il va toujours y avoir cette capacité à dire, un tel, regardez le bien qu'il a fait. Alors que peut-être que c'est un meurtrier, alors que peut-être que... Mais en fait, c'est comme dans un tribunal, c'est ceux qui vont être le plus convaincants avec leurs arguments qui vont l'emporter. Donc je dirais que voilà, le rôle du Seigneur et de ceux qui sont dans son camp, ça va être de regarder les choses qui peuvent nous réjouir et d'arriver à faire l'impasse sur le reste en disant, bon, ça je vais le mettre au second plan. Enfin, en tout cas, c'est un élément stratégique pour réussir soi-même à sortir d'une spirale de violence quand on se sent entraîné par une colère qui nous submerge. Petit 4, Pharaon en Égypte. Alors, on en a parlé déjà un petit peu de Pharaon dans le livre de l'Exode. Il a peur du peuple hébreu, qui d'après lui est devenu trop nombreux, et qui toujours d'après lui constitue un danger qu'il faut supprimer. Il va donc se dresser contre ce peuple en modifiant les lois progressivement, afin de rendre l'Égypte profondément hostile au peuple saint. Et de fait, à cause de sa haine féroce et de son impiété, il va faire se dresser toute une partie de son peuple contre les Hébreux, c'est-à-dire qu'il va utiliser son peuple comme un moyen de faire la guerre. Il va jouer un rôle de responsable inversé, qui au lieu de pacifier son peuple, va faire se dresser des gens contre les autres. Et parmi les Égyptiens qui au départ vivaient en harmonie avec les Hébreux, certains vont devenir des bourreaux, et d'autres vont se détacher peu à peu de Pharaon parce qu'ils vont être heurtés par cette violence et ce mensonge sans queue ni tête. Donc là, ce qu'apportent ces textes-là, je pense, par rapport à notre réflexion, c'est l'utilisation du peuple comme un moyen d'assouvir une colère, en fait, de servir des intérêts qui sont une colère, une vengeance, une peur. Là, il avait peur simplement du nombre des Hébreux. Petit 5, le crime de Givéa. On avance dans le livre des juges au chapitre 19 et 20. On trouve l'histoire la plus horrible de la Bible, ou du moins une des histoires les plus horribles en tout cas. On nous parle d'un couple, c'est un couple qui vivait, enfin non marié mais qui vivait ensemble, un lévite et sa concubine, et qui se disputent. Ils se réconcilient, et puis ils commettent une série d'imprudences. Et alors qu'ils font étape chez un ancien de la ville de Givéa, dans la tribu de Benjamin, des vauriens vont encercler la maison et frapper à la porte avec le désir de connaître le lévite, au sens biblique, c'est-à-dire connaître sexuellement le lévite. Et celui-ci va faire sortir sa compagne de la maison, se disant sans doute qu'il vaut mieux qu'ils aient des relations avec elle plutôt qu'ils aient des rapports homosexuels. C'est sans doute ce qui a dû lui traverser la tête. Et la femme meurt le lendemain matin suite aux violences subies. Et le lévite prend alors un couteau, il la découpe en 12 morceaux, membre après membre, qu'il envoie dans tout le territoire d'Israël. Les autres tribus se lèvent toutes comme d'un seul homme. Elles demandent au lévite ce qui s'est passé. Alors celui-ci va raconter uniquement l'histoire des vauriens de Givéa, de Benjamin, et du fait qu'ils ont abusé de sa concubine au point qu'elle en est morte. Il va juste, dans l'histoire, garder cet extrait. Il ne va pas du tout parler du reste. Et la tribu de Benjamin ne veut pas les écouter. Alors en représailles, toutes les autres tribus vont faire prêter serment de ne jamais donner leur fille en mariage à un benjaminite. Ça c'est des restrictions, comment on dirait aujourd'hui, financières, créer des lois qui vont pénaliser la partie adverse. Et la tribu de Benjamin va se faire exterminer au point que ce sont les autres tribus qui, devant l'horreur supplémentaire commise, il va y avoir un génocide contre cette tribu, il n'y aura quasiment plus personne, qui à un moment vont s'arrêter en disant « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël ». Et ils s'arrêtent en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Donc voilà, on retrouve ces éléments qu'on avait vus, c'est-à-dire la série d'imperfections, une spirale de violence, un aveuglement de chacun des personnages qui va se focaliser sur le préjudice subi, et non sur les efforts ou les points positifs ou que cherchent les gens en face de moi à me dire, parce que s'ils viennent me voir, c'est peut-être qu'ils ont une des bonnes raisons, même s'ils sont maladroits. Le fait que le Lévite laisse éclater sa colère au lieu de l'exprimer d'une manière plus raisonnable et présente cette situation tragique d'une manière parcellaire en occultant les circonstances qui permettraient de se faire une opinion plus mesurée en fait. Et en faisant ça, il attise une colère mais d'une force très très grande. Même les benjaminites qui auraient pu dire c'est horrible ce qu'ont fait certains de nos compatriotes sont vraisemblablement bloqués par le ton employé par les autres tribus à leur rencontre. Et c'est un point important, c'est qu'une personne en colère ne peut pas être entendue, je pense. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère, on est devenu des épines et des ronces, et on finit par avoir le visage en flamme. C'est dans Isaïe que c'est écrit, Isaïe 13, ils ont le visage en flamme. Et ceux à qui on s'adresse vont avoir un réflexe, c'est plutôt de se protéger de nous pour ne pas se brûler, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose en nous qui bouille, qui boue. Et même si peut-être que la colère n'est pas contre la personne en face, c'est un mouvement de, je dirais, de réflexe, de protection, de se protéger, enfin de mettre une barrière entre nous et la personne en colère. Petit 6, Saül se dresse contre David. Nous faisons un saut donc jusqu'au livre de Samuel, où on a un autre motif de persécution qui est donné. Nous avons le roi Saül qui règne, et David qui a son service comme écuyer, comme musicien et comme intercesseur, puisqu'il joue de la lyre pour apaiser Saül quand un esprit mauvais qu'il a en lui le tourmente. Et nous voyons qu'un jour David va accomplir un véritable exploit. Il parvient à vaincre Goliath, le géant philistin, un des référents de l'armée adverse, et ce qui fait gagner la guerre aux Israélites et sauver son peuple. Et à l'arrivée de Saül et David dans la ville, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël et chantent « Saül en a battu des mille et David des myriades ». Ou on traduit aussi par « 10 000 », ça dépend comment on traduit. Et il est dit « Saül est très irrité, il se met à regarder David de travers à partir de ce jour-là ». Il va donc avoir un mouvement brutal contre lui à plusieurs reprises en lui lançant son javelot, que David va esquiver. Il va l'éloigner de lui en le nommant chef de milliers, et lui promet sa fille en mariage. Et le texte montre qu'il a ce désir que David soit dans des situations de guerre où il va périr, parce qu'au front, souvent, on finit par mourir. Mais comme David réussit dans ses expéditions, à chaque victoire supplémentaire, Saül a encore plus peur de lui et il renforce cette persécution à l'encontre de David et peu à peu il engage son peuple entier dans cette guerre contre un seul individu. Et quand Dieu dit par Samuel que c'est David qui doit régner, cela empire les choses. On retrouve de fait cette série d'imperfections qui provoque le soulèvement. Mais c'est une dominante un peu différente, c'est un sentiment de concurrence, de jalousie, comme avec Pharaon, comme avec Hérode aussi, une peur que l'autre vienne me détrôner, en fait. Et qui sont attisées par, notamment, les chansons des femmes qui vantent Saül, les gens qui vantent David, on imagine, et qui rabaissent Saül, qui pourtant est le roi, donc on est censé dire du bien des responsables, en fait, et quand on nomme quelqu'un qui est mieux que le responsable, ben c'est le responsable va peut-être en porter ombrage. Et Saül a une fragilité, et puis aussi David a sans doute une faiblesse, une propension à la colère, dont nous allons reparler tout à l'heure. Voilà, donc Saül, un autre exemple, avec une série d'imperfections encore, mais plutôt avec un autre moteur, ou un moteur montré d'une autre manière, c'est cette jalousie, cette sensation de... c'est encore cette peur en fait qu'on retrouve, hein, mais l'accent est mis sur la jalousie. Alors à l'époque de Jésus, petit 7, plusieurs endroits dans les évangiles, on voit Jésus obligé de fuir. Il subit des choses qui attisent la colère des adversaires, par exemple ceux qui parlent de ses miracles sans discernement, C'est-à-dire qu'ils vont en parler à tout le monde, parce qu'ils ils ont un peu comme un ragot à donner. Des personnes vont prendre peur par rapport à Jésus. La haine, par exemple, d'une partie du Sanhédrin contre Jésus, ils vont réussir quand même à faire huer Jésus lors de sa passion, en faisant crier à la foule « Crucifie-le !» La même foule qui avait été témoin de ses miracles et qui l'avait acclamé. Et c'est-à-dire qu'ils vont en fait galvaniser la force du peuple. Ils vont réussir en fait à prendre à mettre le doigt sur la colère du peuple en appuyant. Et une fois que les gens sont lancés, parce que c'est la colère qui les anime, et il y a une forme d'aveuglement entretenu par cette colère aveugle, eh bien, ils vont même réussir à ce que le peuple dise « il faut relâcher Barabbas ». Et c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément, mais Barabbas, il faudrait mettre des noms actuels des gens les plus affreux qu'on connaisse, quoi. Quand on pense au plus grand dictateur ou au plus grand pervers, ou quand on met ce nom-là à la place, d'arriver à ce que le peuple dise en cœur, il faut libérer lui, quoi. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ils se sont dressés eux, et ils ont utilisé la force du peuple. Et puis on a Judas, à l'époque de Jésus, qui va se dresser. Pour 30 pièces d'argent, il va vendre Jésus. Et on voit que ça arrive juste après que Jésus les contredit lorsqu'il proposait de vendre le parfum de Madeleine plutôt que de la laisser le répandre à ses pieds. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a de la jalousie derrière. Il y a une forme de « Ah, tu m'as contredit, je voulais que tu fasses ton Messie, bah, tu vas voir ». Et voilà, il y a quelque chose, en fait, un désir, j'imagine bien Judas, moi, avec un désir latent qui le dévorait, mais qu'il ne combattait pas vraiment, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, petit 8, c'est devenu une habitude de nous dresser. Hein, dans le quotidien, on passe notre temps à donner notre avis, à tempêter sur ceux qui se reconnaissent à droite ou à gauche, ou aux extrêmes ou au centre. Nos élites ont tendance à faire comme Pharaon, comme Saül, comme les pharisiens, sauf qu'aujourd'hui, ils ont les médias, qui est un outil qui est quand même assez puissant, qui arrive bien à mettre le doigt sur une colère qu'on a en nous, à présenter les choses en enlevant les circonstances où cela se passe, ou en accentuant certaines circonstances et en enlevant les autres, on va dire ça comme ça, et en brodant autour, et ça nous fait nous dresser. Regardez comme le président Trump est raciste, voilà ce qu'il a dit contre les Mexicains, et le peuple de France est tenté, forcément, de critiquer en boucle ce chef d'État, alors que c'est pourtant un commandement de ne pas critiquer un chef. Quand bien même c'est un dictateur, si c'était un dictateur, mais c'est comme si les médias faisaient pousser les ronces dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte qu'on tombe dans un piège de critiquer quelqu'un, quoi. Voilà, quelqu'un qui est avec une circonstance aggravante. Regardez comme ils sont intolérants, ceux qui ne font pas exactement ce qu'on leur demande en cette période de Covid. Regardez M. Poutine qui déclenche une guerre. Et c'est pareil, à chaque fois, en fait, il y a à la fois un fond de vérité. Par exemple, on ne devrait pas faire la guerre et la Russie ne devrait pas faire la guerre. Mais l'effet de ces informations sur nous, c'est que nos pensées et notre bouche vont elles-mêmes faire la guerre, parce qu'on va faire écho en disant « regardez ce qu'il fait » et parler de cette peur qu'on a qui est la guerre et que cette personne est un monstre. Et ça devient courant de dire que ceux qui ne sont pas de mon avis sont des fanatiques, des fascistes, des monstres, tel chef d'État, de cataloguer quelqu'un au lieu de le respecter comme, par exemple, un élu, même dans les extrêmes, normalement, on devrait le respecter. Et puis si on ne l'aime pas, on va voter contre lui, et point. Enfin, les gens le méritent de faire leur travail. Il n'y a pas de raison que dans notre travail, les gens se dressent contre nous en disant « Regardez le méchant dans tel corps de métier. » Les politiques n'échappent pas à la règle, quoi. Voilà pour cette première partie qui était ces personnages qui se sont dressés pour des mauvaises raisons. Grand 2, les justes qui se dressent. Petit 1, Abraham, qui va sauver Lot des mains des quatre rois. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Lors d'une guerre menée par les rois de Shinéar, d'Éléazar, d'Élam et de Goïm, la ville de Sodome se fait attaquer et prendre. À cette occasion, Lot, qui est le neveu d'Abraham, se fait emmener captif. Et Abraham, lorsqu'il apprend que son neveu a été emmené captif, il va mettre sur pied une petite armée et il va partir à la poursuite des quatre rois qui ont kidnappé les habitants de Sodome. Il les attaque de nuit, il arrive à reprendre tout le butin et l'ensemble des prisonniers, et surtout son neveu Lot. Et lorsqu'il retourne à Sodome, il rend au roi l'intégralité du butin, à l'exception de ce qui permet de rétribuer ses soldats, mais il ne garde rien pour lui. Alors, il devait se douter peut-être de ce qu'on faisait à Sodome, mais peut-être pas uniquement. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il semble s'être focalisé sur une chose, la vie de son neveu, qui est précieuse à ses yeux. Lui, c'est ça qu'il a regardé. Il a occulté le fait que la plupart des autres prisonniers soient des gens de Sodome. Il a occulté le bénéfice qu'il pouvait avoir avec tout ce butin qu'il avait pris, puisqu'il a tout rendu. En fait, il a fait l'inverse de Siméon et Lévi. Siméon et Lévi avaient dit « Notre sœur s'est faite violenter, et je tourne en boucle ce motif dans ma tête pour agir. » Lui, il a tourné en boucle dans sa tête « Il faut que je sauve mon neveu. » C'était ça. Ce qu'on voit, c'est que les habitants de Sodome ont été les heureux bénéficiaires de ce dommage collatéral, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient, quelque part, leur mérite, c'était d'abriter un juste chez eux, quoi. Deuxième exemple d'un juste qui se dresse, Gédéon, qui part en campagne. On est dans le livre des Juges, chapitres 6 et 8. L'ange du Seigneur vient s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joash, du clan d'Aviézer, et il s'adresse à Gédéon, afin qu'il se dresse pour sauver Israël de Madian, puisque Madian ne cesse de faire des ravages et ne laisse aucun moyen de subsistance au peuple. C'est-à-dire qu'ils brûlent les champs, ils font tout pour qu'ils n'aient rien à manger. Alors l'ange lui dit, « Vas-y, c'est toi qui, avec la puissance de Dieu, va tout arranger. Que fait Gédéon ?» J'ai noté quatre points. Premièrement, il vérifie que cela vient du Seigneur. Puisque on lui dit, fais la guerre, rentre en conflit ouvert avec d'autres personnes. Donc il vérifie. Son moyen de vérifier, c'est d'offrir un sacrifice conformément à ce qu'il a appris. Il fait un acte d'obéissance à la tradition qu'il a reçue, pour voir si l'ange est en harmonie avec cela, ou si ça fait fuir l'ange. Pour nous, ça serait, par exemple, j'en parle à mon épouse, à mon meilleur ami, à mon père spirituel, ou à quelqu'un qui est ouvert à ces sujets et ne va pas tomber dans l'angoisse ou la colère, quoi. C'est ça que ça veut dire de vérifier. Deuxièmement, il fait ce que l'ange lui a demandé, c'est-à-dire qu'il va détruire les autels dédiés à des divinités païennes que son père avait construits. Il va ériger un autel au Seigneur et il va offrir un sacrifice dessus. Donc il va avoir un certain courage de braver, de faire l'inverse de ce que font les gens autour de lui. Troisièmement, poussé par l'Esprit du Seigneur, il va rassembler une armée qui ont été témoins de sa bravoure et qui vont être touchés par son cri d'appel à la guerre. Et là, quatrièmement, il s'arrête et il interroge le Seigneur. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette histoire de la toison de laine qui va étendre sur une aire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'est une aire pour battre le blé. Et d'abord, il va mettre sa toison de laine en disant, « Seigneur, je veux, si ça vient vraiment de toi qu'il faut faire la guerre, je veux que demain matin, tout soit mouillé sauf la toison. » Et le lendemain, c'est ce qui se passe. La toison est sèche. Et après, il dit, « Non, Seigneur, je veux être vraiment sûr que c'est toi qui m'envoies. Je veux que seule ma toison soit mouillée demain et l'air qu'elle soit sèche. » Et le lendemain, effectivement, il arrive à exprimer toute une coupe d'eau en pressant sa toison, alors que tout le reste est sec. Donc il a deux signes vraiment très forts, disant que le Seigneur lui dit « Je suis avec toi, il n'y a pas de doute possible. » En fait, on peut se demander, mais pourquoi il demande un signe à ce moment-là? Parce qu'il avait déjà demandé un signe, et le Seigneur avait agréé, à travers l'ange, son offrande, en brûlant le sacrifice qu'il avait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de feu, et le Seigneur avait déjà agréé en donnant un signe fort. Mais, en fait, il a fait un acte plutôt individuel en ne démolissant que des objets matériels, c'est-à-dire un autel, il y avait un poteau, puis un autel qui était en haut d'une montagne, donc c'était difficile à faire, mais c'était pas des gens, quoi. Et là, on peut se demander si c'est de l'incrédulité ou de la paresse, mais moi je pense que c'est parce qu'il s'apprête à mettre en jeu la vie de nombreuses personnes dans cette guerre contre les Madianites, Et c'est pour ça qu'il dit, il faut vraiment que je sois sûr, quoi, parce que il y a matière grave, en fait. Et effectivement, le Seigneur répond par ces deux signes, et non seulement le signe de la toison le confirme, mais je pense que en interprétant ce signe, que Gédéon va comprendre comment avancer et gagner cette guerre. J'ai écrit un article sur le temps des pluies où en fait j'ai passé du temps à essayer de comprendre ce que voulait dire ce signe, qu'est-ce qu'il a compris sur le moment et en quoi ça l'a aidé en fait. Parce que je trouve ça passionnant de me dire, mais est-ce que c'est juste, je demande un signe et puis ah oui, bah c'est bon, ça s'est produit, mais non, en fait il y a un symbole attaché à l'air, à la toison, à la pluie, et en fait il y a une correspondance, un parallélisme extraordinaire avec tout ce qui se passe après. Et c'est comme si Gédéon avait eu une longueur d'avance en faisant ça en fait. Et puis il part en campagne contre Madian, et je pense que ces deux signes montrent, attention, reste bien docile. Et le Seigneur va lui faire faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, en disant, il y a une partie de ton armée que tu vas renvoyer chez eux. En fait, il va attaquer avec très peu d'hommes, il va attaquer sans armes, en sonnant du cor et en tapant avec des outres comme ça, enfin d'une manière complètement folle. Et les gens, les Madianites vont s'entretuer, et ils vont rien faire d'autre que hurler, quoi, de nuit. Voilà. Et affronter leur angoisse de faire ça, parce que ça devait être angoissant de faire ça, je pense. Voilà, donc quand on s'attaque à d'autres personnes, par exemple avant d'entamer un procès, de publier un article polémique, de faire une manif, plus nos adversaires sont nombreux, plus il semble nécessaire de mettre notre projet en pause pour demander au Seigneur son avis. Ça, c'est, je pense, c'est assez net. Je reviendrai sur la manière d'interroger le Seigneur un peu plus tard. Grand 2, petit 3, David sauve ses femmes Ahinoam et Abigail des griffes des Amalécites. On est dans le premier livre de Samuel, chapitre 30. Durant les années où il est en fuite, David va résider quelque temps dans la ville de Siclag en Philistie. Que fait David lorsqu'il apprend que la ville de Siclag a été incendiée par l'ennemi qu'on appelle Amalek ? Et que ses deux épouses se sont faites enlever. Quelles étapes parcourt-il pour savoir s'il doit se dresser avec ces hommes pour aller les sauver? C'est en 7 points. Premièrement, il pleure jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Il faut que ça sorte. Deuxièmement, il surmonte son angoisse, puisque les gens autour de lui commencent à dire « on va lapider David, c'est sûrement à cause de David qui nous a pas assez protégés, qui a été imprudent ». C'est vrai que dans ces périodes d'épreuve, souvent, on veut trouver un coupable. Et on va plutôt commencer à s'entretuer et à trouver des responsables plutôt que d'affronter le problème ensemble, en fait. C'est une tentation. Donc lui, on imagine, il a dû se dire, allez Seigneur, je vais pas me laisser abattre par cette ambiance électrique. Je vais leur montrer que j'ai pas peur d'eux et je vais leur proposer qu'on y aille ensemble, chercher les prisonniers. Troisièmement, il va consulter le Seigneur pour savoir si c'est une bonne idée de poursuivre les fugitifs. Donc ça, il va demander au prêtre Abiathar son éphod, c'est-à-dire une robe de prêtre, et il va interroger le Seigneur qui va lui dire « Oui, tu vas pouvoir rattraper les ennemis et tu récupéreras tes femmes. » Voilà, il aura une réponse assez franche. Quatrièmement, il reste dans l'obéissance. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que à l'époque, il était en Philistie, et il venait d'obéir au roi de Gat, parce que le roi avait dit « Maintenant, on va tous faire la guerre. » Il avait levé une armée, et donc lui et ses hommes, il y était allé. Et le roi de Gat venait de lui dire « Je veux que tu rentres chez toi, parce qu'on attaque Israël, et mes généraux ont peur de toi, ils pensent que tu n'es pas fiable, que tu risques de nous trahir pendant cette guerre. » Et donc ça devait être assez humiliant pour David, qui était un expert en guerre. Il avait une aisance des arts de la guerre qui était extrême. Ça devait être très humiliant de repartir chez lui, à Siclag, avec ses hommes, et de dire aux hommes, d'arriver à répercuter l'ordre sans que ça provoque des désordres, quoi. Parce qu'il aurait pu avoir des déserteurs, entre guillemets, qui diraient, moi je veux rester dans l'armée qui va peut-être prendre du butin, des dépouilles, etc. Et en fait, le fait de revenir avec son armée à Siclag, ils ont pu se rendre compte suffisamment tôt que la ville avait été radiée, et ils ont pu dire, on part tout de suite, dès qu'ils ont interrogé le Seigneur, ils étaient quand même 600. Quand ils poursuivent les Amalécites, ils se retrouvent face à un torrent et ils ont 200 hommes qui ne savent pas nager et qui se retrouvent bloqués. Donc heureusement, ils étaient nombreux. Cette obéissance lui a permis vraiment de poursuivre les ennemis jusqu'au bout avec une partie des hommes. Cinquièmement, David reste disponible. C'est-à-dire qu'il a son objectif, je veux récupérer mes femmes. Mais, alors qu'il est en route, il y a un Égyptien à moitié mort sur le bord de la route, dans la campagne. Alors, il prend le temps de s'arrêter et de le restaurer. Et en fait, il s'avère que cet Égyptien était un esclave d'un Amalécite, qu'il avait été abandonné parce qu'il était malade. Les Amalécites faisaient la guerre, ils avaient fait une radia dans Cyclague, et ils avaient dit, on n'a pas le temps de s'occuper de tel esclave, qui est Égyptien. Donc, ils l'ont abandonné. Et celui-ci, une fois qu'il est restauré, donne toutes les informations à David pour qu'il rattrape les Amalécites. Et la victoire est éclatante. C'est comme si l'Égyptien avait fait prendre un raccourci. David a réussi à sentir qu'il fallait mettre en pause la poursuite, malgré le stress qu'il avait, l'envie bouillonnante de récupérer sa femme, et de passer à l'acte avec son épée. Voilà. Donc il bat les Amalécites et reprend les prisonniers, le butin et surtout ses épouses. Et en revenant, il va surmonter la vénalité de ceux qui disent « on ne va pas partager le butin avec les 200 hommes qui n'ont pas traversé le torrent ». Forcément, dans l'armée, une partie des gens disent « bah oui, mais nous on s'est battus, vous êtes gentils, vous êtes restés avant le torrent ». Et David leur répond qu'ils méritent eux aussi une part du butin parce qu'ils ont gardé les bagages. Et d'ailleurs, pour bien leur montrer que ce qu'il a décidé, il envoie une part de butin à toutes les villes ou les quartiers qui l'entourent. C'est-à-dire que cet argent, pour lui, c'était pas l'objectif, quoi. Il a fait en sorte qu'il ait son objectif. Je récupère les gens qui sont importants pour moi et la partie financière, je dirais, il la met au second plan. Grand 2, petit 4, c'est dans le livre de Néhémie. On va voir Néhémie qui va être les chansons du roi, Artaxerxès. Et Néhémie va afficher un visage triste. Le roi va lui demander, alors, qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie va lui répondre, c'est parce que je suis inquiet pour mes frères et sœurs qui sont à Jérusalem, qui est en ruine, et voilà. Et du coup, le roi va lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Néhémie va prier et réfléchir avant de répondre, et puis dire, je voudrais que tu m'envoies avec des lettres de mission pour rebâtir Jérusalem. Donc, il y avait deux choses dans cette histoire qui avaient retenu mon attention. Il y avait premièrement la tristesse sur le visage de Néhémie. Moi, je le mets en parallèle avec la bouderie. C'est-à-dire que la bouderie telle que l'a voulu le Seigneur, c'est la tristesse quand on s'inquiète pour quelqu'un, en fait. C'est pas donc la tristesse de Caïn, mais c'est une tristesse liée au sanctuaire du Seigneur, liée aux personnes qui habitent à Jérusalem, qui ne peuvent plus se protéger, qui ne peuvent plus prier comme il se doit. Et en fait, ce visage abattu va contraster avec le visage joyeux du croyant, visage joyeux qu'on aborde d'habitude. Et du coup, les personnes vont, ça va être un moyen pour toucher les gens, en fait, et pour pouvoir se dresser et que les gens nous apportent leur concours. Et puis il prie, c'est-à-dire qu'il confie chaque parole au Seigneur avant de les prononcer, et il ose même demander des choses. Il arrivera à obtenir des lettres, des ordonnances, et qui lui ouvre toutes les portes, en fait, qui fait que tous les préfets n'opposeront pas de résistance, puisque ce roi a dit « Ok » à Néhémie pour aller rebâtir Jérusalem. Petit 5, c'est Judith, qui va dans le camp ennemi frapper le général assyrien. Judith, chapitre 8. Que fait Judith, fille de Merari, lorsqu'elle apprend que les chefs de la ville de Béthulie, où elle habite, voyant leur ville assiégée par les Assyriens, ont résolu de se rendre aux ennemis? Donc elle entend, il n'y a plus rien à faire, les ennemis sont trop nombreux, ils nous encerclent, voilà, on baisse les bras, dans deux jours. Premièrement, elle invite les chefs, elle les affermit, elle les encourage. Deuxièmement, elle prie et jeûne avec force au moment où l'on offre de l'encens à Jérusalem ce soir-là. Donc elle est en union de prière avec le peuple de Dieu qui prie. Et troisièmement, elle se fait belle. Elle utilise tous les moyens, de l'huile parfumée, une coiffure somptueuse, des habits de fête. Et ainsi mise en valeur, elle sort de la ville, elle traverse toutes les lignes ennemies Parce que les soldats, ils font « Ah !» en voyant une femme magnifique qui arrive, alors qu'eux, ils sont tous, on imagine, pleins de terre ou d'éléments pour se camoufler. Voilà. Et au moment favorable, comme elle se fait inviter par le général assyrien, au moment favorable, elle le tue. Et elle lui coupe la tête. Et elle met la tête dans son cabas et elle s'enfuit avec la tête d'Holoferne, le général, dans son cabas, afin de le ramener dans sa ville. Et quand elle rentre, ça provoque une joie inexprimable à son peuple et une angoisse terrible aux Assyriens qui vont se faire décimer le lendemain par les Israélites. Voilà, donc sa manière de se dresser, ça a été « J'encourage ceux qui ont pris une décision qui tue l'espérance en disant « On ne peut plus rien faire, il faut se soumettre à toutes les lois, aux événements », de prier en utilisant la force de la prière et de l'union avec d'autres qui priaient, parce qu'elle sait que, par exemple, à Jérusalem, il y a les sacrifices du soir, donc elle prie au même moment en disant « Je vais profiter de cette... » Vous connaissez peut-être pas la communion des saints, mais c'était un peu pareil. Et troisièmement, elle va utiliser ce qu'elle sait faire, et elle, c'est pas l'art de la guerre, ça va plutôt être le fait de qu'on n'imagine pas qu'une femme puisse fracasser un général, quoi. Elle vient, et puis on se dit, bah, c'est une femme, donc, en plus, elle est vraiment belle, donc, il y a quelque chose de grandiose, je trouve, dans c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Les femmes, elles vont utiliser le décalage qu'il y a entre le regard qu'on pose sur elles, dans la Bible, et puis ce qu'elles ont réellement à l'intérieur d'elles-mêmes, quoi. Grand 2, petit 6, les quatre brancardiers, que vous connaissez, qu'on trouve dans les trois évangiles, dans trois des quatre évangiles, sauf Saint Jean. Vous connaissez, c'est donc ces brancardiers qui portent un ami à eux, vraisemblablement, et qui vont affronter plusieurs épreuves lorsqu'ils se dressent pour que Jésus s'occupe de leur ami qui est paralysé. On imagine qu'il a d'abord fallu qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se disent on se fixe un objectif, on tourne en boucle vraiment de sauver notre ami et d'utiliser tous les moyens qui... Notre désir commun on va mettre en commun aussi notre force et on va tout faire, tout ce qui est nécessaire pour notre ami. Et ensuite, ils vont surmonter le problème de la foule qui bloque l'accès à Jésus. Et ils montent, alors il faut d'abord monter sur le toit. En fait, je ne sais pas s'ils ont pu accéder à l'escalier qui permet de monter sur le toit ou s'il a fallu des échelles sans abîmer leur ami. Puis, faire un trou dans le toit, oser, je dirais, porter des dommages au toit de la personne qui on ne sait pas s'il la connaissait, et puis descendre leur ami sans être gêné par le fait de s'exposer au regard, d'être devant tout le monde, et peut-être que Jésus ne guérisse pas tout de suite. Enfin, en fait, rien n'était sûr dans l'histoire. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'ils ont évité le piège de la foule, d'affronter la foule. C'est-à-dire qu'ils ont vu la foule, les gens qui étaient partout. Et ils se sont dit, si on essaie de les pousser, de leur dire « s'il vous plaît, c'est une priorité ou autre », on risque de peut-être d'avoir des gens en colère qui vont dire « mais moi aussi, j'ai besoin d'être guéri », ou alors « c'est passionnant ce que j'entends ». En fait, ils vont sentir qu'il y a un piège à éviter, quoi. Ils voient dans la foule non pas des opposants, mais plutôt un obstacle à contourner, en se disant ben, « voilà, cet obstacle, je le contourne ». Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec la colère. C'est parce que, donc je disais tout à l'heure qu'une personne en colère, on n'arrive pas à avancer sur des choses concrètes, en lien avec le sujet qui la met en colère. Et dans la Bible, on parle de la colère, c'est Séir, ou Édom. Et il est dit, tu n'attaqueras pas Séir, mais tu contourneras le pays de Séir. Et les Israélites, dans les livres, les premiers livres de la Bible, ça doit être l'Exode ou les Nombres, je crois, ils mettent 3 jours à contourner Séir. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a une colère potentielle chez des gens, il vaut mieux passer outre, contourner le problème, aborder le problème différemment avec la personne, plutôt que d'y aller frontalement et en fait d'affronter un problème qu'on n'avait pas au départ. Parce qu'au départ, la foule n'a rien contre eux, en fait. Ils arrivent avec leur brancard, et la foule, je dirais qu'ils ne les remarquent pas. En fait, la foule, ils vont commencer à les remarquer s'ils commencent à essayer de fondre la foule, vous voyez. Voilà, ça fait partie peut-être des questions à se poser quand on entame un chantier de se dresser pour une cause qu'on estime juste. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui risquent de nous... En fait, on risque de se heurter à leur colère, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens... Les sujets qu'on va remuer, ça va peut-être ça va nous faire des opposants de plus, alors que peut-être qu'au départ, ils n'étaient pas contre nous, quoi. Grand 2, petit 7. David lutte contre la colère. Les trois étapes de la guérison. Alors, je vais reparler du roi David pour montrer le chemin qu'il a suivi en lien avec notre sujet. David, il est décrit dans de nombreux endroits dans la Bible, par exemple dans le psaume 78, comme quelqu'un de profondément intègre. Il est dit, par exemple, « Il choisit David son serviteur, le prenant dans une bergerie. De derrière ses brebis, il le fit venir. Il en fit le berger de Jacob son peuple, d'Israël son patrimoine. Berger au cœur irréprochable, il les guida d'une main avisée. » Et puis, il y a les nombreuses promesses en s'appuyant sur les promesses faites à David. C'est-à-dire qu'il y a des générations de croyants qui ont dit « Seigneur, souviens-toi des promesses faites à David. » Et devant le Seigneur, cet argument est un argument avec un poids immense. C'est comme si on mettait, on avait un avocat à côté de nous qui est David. Ah oui, mais David, il a reçu des promesses. Je redis que « Seigneur, tu seras avec nous quand on invoquerait le nom de David. » Voilà, donc David, c'est quelqu'un d'immense. Et pourtant, il avait un problème avec la colère. Comment le sait-on ? Et il le dit lui-même à deux reprises, une fois à son fils Salomon, au chapitre 22 du premier livre des Chroniques. « Mais la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, « Tu as répandu beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne construiras pas ma maison pour mon nom, car tu as répandu beaucoup de sang sur la terre devant moi. » La deuxième fois, David parle devant tous les chefs et les hommes de valeur, donc devant tous les responsables, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28. Tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as répandu le sang. Voilà, il redit les paroles que le Seigneur lui dit. David est quelqu'un issu d'une famille blessée par la colère, et on voit que Dieu lui dit, c'est bloquant, parce que pour bâtir un temple où c'est le lieu de la paix, en fait, c'est le lieu où les prêtres viennent pour faire propitiation, pour faire réparation, pour que le Seigneur fasse la paix avec l'humanité, il peut pas y avoir quelqu'un qui s'attaque aux autres, en fait. Qui a une colère, qui c'est pas possible, voilà, c'est incompatible. Une famille blessée par la colère, vraisemblablement, il va proclamer cela à son fils et puis à tous les responsables, et c'est un peu comme s'il, moi je le vois comme si, un peu comme s'il portait son brancard après avoir été guéri et témoigné des merveilles que Dieu a faites dans sa vie, c'est-à-dire de dire, vous vous rendez compte, mon fils a obtenu la grâce de bâtir un temple pour le Seigneur. Et il nous enseigne que quand on est en colère sur un sujet, on peut pas bâtir quoi que ce soit de stable. Alors pourquoi David a été en grande partie guéri de sa colère ? Parce que donc il en parle, et parce que il sur ce chemin de guérison entre 1 Samuel 18 et 2 Samuel 16, le Seigneur lui a fait traverser successivement trois périodes durant lesquelles il a subi des nombreuses tentations qui attisait sa propre colère. Il était sans arrêt tenté de se mettre en colère, de critiquer, comme on va le voir. Et il en sortait victorieux. C'est-à-dire qu'on peut dire que sa famille a été en grande partie guérie sur ce sujet-là, parce qu'il offrait sans arrêt son envie de se mettre en colère contre tous les gens qui méritaient la colère, on aurait pu dire ça. Alors, cette première période. La première période, c'est quand David est au service de Saül. Cette première période correspond symboliquement, je pense, au moment qui suit immédiatement une confrontation avec quelqu'un qui va nous blesser et déclencher une immense colère. Il y a une période où on va avoir la colère très présente à l'esprit, on va être peu éloigné de la personne, qui va être un chef ou un collègue de travail ou un membre de notre famille. Donc on voit que effectivement pour David, Saül va vouloir le tuer à plusieurs reprises, et puis qu'il va l'éloigner en l'envoyant à la guerre. Et puis que fait David, lui ? Il montre une obéissance sans faille à son responsable, quand bien même il sent une forte hostilité. Et je pense qu'il nous montre que l'obéissance, c'est un moyen puissant de guérir les malédictions familiales de colère. Paul, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, dira que quand on obéit à nos responsables, on devient comme des astres qui brillent dans l'univers. En période de ténèbres, quelqu'un qui va obéir en disant que mon responsable, il me dise blanc ou noir, ou mon père, ou mon curé, ou l'agent de police quand je passe dans la rue, ou la personne qui à un moment est responsable de moi, ou mon prof, ou mon je ne sais pas quoi. Il me demande quelque chose à un moment où je suis censé le faire, sauf si évidemment il y a quelque chose, un sujet, une matière très grave, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Je vais obéir avec la joie de comme si le Seigneur m'avait demandé quelque chose. Voilà. Ça c'est quelque chose de très beau. C'est, je pense qu'il y a une vraie protection et quelque chose qui va guérir notre colère. La deuxième période que vit David, c'est un moment où il doit fuir Saül, qui est devenu trop dangereux pour lui, et où on va voir que Jonathan, le fils de Saül, qui s'est pris d'amitié pour lui, va l'aider à fuir, et David va vivre comme un fugitif pendant plusieurs années, puisqu'il va être traqué quand même par Saül, et il va être régulièrement dénoncé, donc il va devoir déménager tout le temps. J'imagine ce qui va être difficile du point de vue de sa propre colère, bien sûr. Mais je pense que c'est pas la même période parce que c'est une avancée, dans le sens où il n'est plus en contact rapproché avec la personne qu'il met en colère. Et c'est dans cette seconde période, en fait, qu'il va résider chez différentes nations autour d'Israël, et notamment chez les Philistins. Il va réussir à trouver un équilibre avec les Philistins, qui sont pourtant un des ennemis les plus acharnés d'Israël. Il va réussir à être quasiment invisible, en fait, à trouver comment collaborer. Et symboliquement, en fait, donc cette deuxième période va représenter le fait de faire partie d'un groupe, un groupe humain, où il y a une hostilité perpétuelle, à la fois de la part de notre chef, ou de nos responsables, et puis des personnes autour de nous. Pour David, ça va être les Philistins, Moab, Aram, Amalek, Édom, les habitants de Ziph qui vont le dénoncer à deux reprises. Voilà, il va avoir sa dose de gens hostiles au possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait des épines et des ronces, et en entreprise, c'est vrai que, par exemple, c'est un monde très hostile. Très vite, les gens vont se retourner contre nous. Très vite, on a l'impression qu'on est amis, et puis à la moindre difficulté qui laisse penser qu'on aurait fait quelque chose contre eux, il va y avoir un côté versatile très fort, en fait. Et voilà, la méditation sur cette seconde période, on va y revenir tout à l'heure, je pense, va donner des clés. La troisième période dans la vie de David, c'est après la mort de Saül, lorsque David revient en Juda, où il va d'abord s'établir à Hébron, puis à Jérusalem. C'est symboliquement, je pense, lorsque soi-même on est responsable, et où on va être soumis à certaines tentations qui ne sont pas les mêmes, tentations de se mettre en colère, bien sûr, et de provoquer de la colère, qui ne sont pas les mêmes que quand on est un élément lambda dans un groupe, ou dans une famille. Et donc c'est un autre péché qui va le tenter, et malheureusement il va succomber d'ailleurs, et qui attire la colère, c'est le fait de commettre un péché grave à l'encontre de ses enfants, de son peuple, de son épouse, c'est le fameux adultère avec Bethsabée, qui est en lien d'ailleurs avec un ennemi nouveau qui apparaît, c'est l'ennemi, les Ammonites. Vous verrez que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a les Ammonites, bien à chaque fois, il y a un enfant qui se fait tuer, ou une fille qui se fait violer, ou un adultère, vous voyez, et ça va provoquer une colère immense, quoi. Les Benjaminites tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on a vu avec un péché extrêmement grave d'un meurtre ou d'un viol ou d'un adultère, c'est cette troisième tentation. C'est quand on a une responsabilité, c'est cette tentation-là qui va nous assaillir, et malheureusement, si on succombe, on va nous-mêmes être un vecteur de colère. Et effectivement, il va subir les conséquences, il va en voir les conséquences, puisqu'il a un fils qui va mourir, il va y avoir un viol dans sa famille. Celui qui a violé, qui est son fils, il va être tué par un autre de ses fils. Amnon va le persécuter et il va devoir fuir. Donc l'histoire se répète, quoi, cette spirale de violence. Alors, je vais faire un focus dans le petit 8 sur la rancune. On va revenir sur ce chien enragé qui est tapis à la porte. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 21, c'est juste au moment où Saül a répété ce geste de lancer le javelot contre David, et David a dû fuir, aidé par Jonathan. Donc on imagine, il est encore ébranlé par j'imagine, Saül avec les yeux injectés de sang qui veut le tuer, quoi. Et que fait David? Il fait escale dans un sanctuaire, le sanctuaire de Nov, où résident des prêtres, dont le prêtre Ahimélec. Et il y a un autre personnage qui s'y trouve aussi, qui est Doeg l'Édomite, qui est un serviteur de Saül, et qui va le dénoncer à Saül. Et Saül, par la suite, fera tuer tous les prêtres de Nov, sauf l'un des fils d'Ahimélec, qui s'appelle Abiathar. Voilà. Ils vont tous se faire décimer suite au départ de David pour avoir hébergé le fuyard. Et pour avoir aussi pris la défense de David, puisque Ahimelech va dire, mais David n'est-il pas ton serviteur, Saül? Pourquoi le pourchasses-tu? Il va s'appuyer sur des faits concrets, sans être dans la provocation non plus, pour dire, mais es-tu sûr qu'il y a matière à être aussi en colère contre lui, quoi? Alors, sur un plan symbolique, Doeg peut être vu comme un pardon non donné par David. C'est-à-dire que quand on vient dans le sanctuaire de Nov, c'est quand on vit un moment fort de spiritualité, par exemple une retraite, ou pour nous aujourd'hui une messe, un sacrement de la réconciliation, ou d'autres moments forts. Et s'il reste chez moi un pardon envers quelqu'un que je n'arrive pas à donner, et rappelons que David venait juste d'esquiver le javelot de Saül, presque toutes les grâces que Dieu me donne vont se faire décimer, comme les prêtres vont se faire décimer par Saül. Et quand je vis ce moment de communion, c'est comme si le Christ se faisait à nouveau flageller dans mon cœur, parce que j'ai ce pardon que j'ai pas réussi à donner vraiment. Les prêtres d'ailleurs, on verra que Abiathar va trahir David, c'est-à-dire que les prêtres eux-mêmes, en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas été protégés ni par le fait que David soit en colère, ni par le fait que Saül soit corrompu, ni par le fait qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas nets, parce que Abiathar va par la suite trahir David. Il va faire en sorte de faire élire son autre fils comme roi. Donc on voit qu'il y a une corruption généralisée à cette époque. C'est jamais, en fait, il y a toujours une spirale, enfin une série d'imperfections, en fait. Voilà. Et une mauvaise conjonction qui va faire qu'il va y avoir des massacres, des meurtres. Jésus parlera aussi de la tour de Siloé qui s'écroule. Il va parler de catastrophes qui se produisent à un moment donné. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les éléments, mais souvent, il y a une série de choses qui ont manqué pour que les gens soient protégés, en fait. Il aurait suffi que l'un d'entre eux, je dirais, soit complètement net, et la protection aurait bénéficié à tout le monde. Par exemple, imaginons David aurait pardonné, aurait réussi à vraiment pardonner, ou imaginons les prêtres auraient réussi à ne pas avoir de choses, je dirais, corrompues dans leur sacerdoce, ou Saül aurait réussi à se laisser toucher par ce qu'a répondu Ahimelech. Voilà, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période où, comme on a plus de mal qu'avant à pardonner aussi vite que toutes les offenses qu'on reçoit, qu'on subit, eh bien, on a aussi cette tendance-là, et on va, en fait, malheureusement, avoir moins de grâce dans les moments de communion. C'est-à-dire dans les moments où on se met à table avec d'autres personnes, dans les sacrements qu'on vit, dans les moments de prière, on va, voilà. Le Seigneur, par miséricorde, va toujours donner quelques petites grâces, va toujours sauvegarder des grâces, alors qu'il pourrait dire, je ne vous donne rien. Voilà. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Comme avec Caïn, où il dit, je te laisse en vie, au lieu de faire tuer, etc. Et on voit quand même que David est héroïque, parce que même s'il y avait cette imperfection, enfin moi je le lis comme ça en tout cas, David se montrera toujours hostile à la violence de manière publique, chaque fois que dans son royaume des chefs de guerre seront violents. Voilà, il y aura plein d'exemples où il va s'inscrire en faux contre des gens qui pratiquent la violence, des responsables de son armée, il va faire proclamer des jeûnes publics, il va dire je me dissocie de la violence commise, quoi. Enfin, quand il va être en position de chef en tout cas. Et la Bible ne donne pas d'exemple où David critique, en fait. C'est quand même quelqu'un qui travaillait, il était tenté par la colère, mais il résistait de toutes ses forces. Grand 2, petit 9, l'épreuve finale pour mettre fin à la malédiction. Je lis dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, lorsque David s'enfuit pour ne pas affronter son fils Absalom, il y a un personnage qui surgit de nulle part et qui maudit publiquement David, qui s'appelle Shimei, qui est fils de Guéra, et qui va remuer de la poussière, jeter des pierres, et qui vont même atteindre des serviteurs de David. Il va publiquement dire des choses affreuses devant tout le monde sur le roi, enfin sur le qui n'est pas encore roi, enfin si, qui est roi à cette époque-là. Et David est tenté par Avishai, fils de Seruya, de couper la tête de Shimei. C'est-à-dire qu'il a un chef de guerre qui, dans plusieurs épisodes, va lui dire « Mais je vais le tuer, moi. » Et aussi, quand il coupe le pan du manteau de Saül, vous savez, il a le chef de guerre, justement, qui a dit « Mais c'est une occasion de le planter. » Voilà, il y a toujours cette tentation de dire « On va profiter du moment. » Et David fait cette belle réponse au tentateur. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Seruya? Donc, qu'y a-t-il entre moi et vous, ça veut dire, oh là là, du calme. S'il maudit et si le Seigneur lui a dit, va maudire David, qui pourrait lui dire, pourquoi as-tu fait cela? David a dit à Avishai et à tous ses serviteurs, si mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjaminite, laissez-le maudire, si le Seigneur le lui a dit. Peut-être le Seigneur regardera-t-il ma misère et me rendra-t-il le bonheur, au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est un effort quasi insurmontable consenti par David, et que cet effort produit un miracle par la suite, dans les versets suivants. En effet, en fait, David, il a un allié qui est resté au palais, qui s'appelle Hushai l'Archite, qui est un ancien reconnu. Eh bien, celui-ci va trouver la force de convaincre Absalom, par ruse, de commettre des erreurs stratégiques lorsqu'il poursuit David. Et grâce à ces erreurs-là, puisque Hushai va être convaincant, comme par hasard, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui donne les bons conseils pour pouvoir achever David, Absalom va être séduit par Hushai, et il va commettre des erreurs, et David va réussir à s'enfuir. Et ainsi, toutes les erreurs, vont faire que ça va permettre de sauver la vie à toutes les personnes avec David, qui sont nombreuses. Et à partir de ce jour, en fait, il n'y aura plus des preuves de colère forte. J'en ai pas vu dans le texte qui suit, en fait. Enfin, sauf évidemment le péché de David avec l'adultère, etc. Mais il n'y aura plus une oppression incessante contre David pour le mettre en colère. Voilà. C'est comme si c'était le bouquet final. Le Seigneur qui lui disait, allez, on va faire le ménage un bon coup, et après, ta famille sera guérie de la colère, ou à peu près. Petit 10, c'est l'avant-dernière partie de la partie 2. La Trinité s'occupe de nous guider et de nous guérir de nos colères et de nous éclairer. Alors, une manière de lire l'histoire de David, c'est de reconnaître l'action de la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, à travers plusieurs des personnages, toute proportion gardée bien sûr, car eux n'éprouvent pas de haine ou de mépris, contrairement aux personnages de notre histoire. Alors, Saül représente, je pense, le Père Céleste, qui ne cesse jamais de challenger David pour le faire avancer, pour le confronter à ses colères, à ses envies de se mettre en colère. Il va y avoir des événements sans arrêt qui vont le piquer, et effectivement, c'est le Père Céleste qui, en voyant certains péchés familiaux, ça le met en colère, que ces péchés-là ne soient pas réparés encore. Voilà, donc par exemple, peut-être que dans la famille de David, il y a eu des violences immenses contre un enfant ou contre un responsable qui a été humilié en public, comme ça s'est passé avec Shimei, c'est peut-être ça le plus probable. Et quand tel est le cas, le père qui s'afflige de cette situation, il va envoyer donc ses ennemis à David pour que par son courage, David triomphe de ses tentations de colère et laisse Dieu agir dans sa famille et réparer et faire rentrer la paix dans sa famille par cette hostilité ambiante en fait. Deuxième personnage, Jonathan, fils de Saül. Je pense que Jonathan représente le Christ. Alors, Jonathan devient l'ami intime de David, juste après que celui-ci ait abattu le géant Goliath. Symboliquement, David a accompli un acte de foi et de bravoure immense pour ses frères et sœurs. En fait, il avait en tête le salut de son peuple et l'offense immense faite à Dieu. Il va dire plusieurs fois, le Saint d'Israël a été offensé. Jésus va nous dire que celui qui fait telle ou telle chose à un seul de ses petits, c'est à lui-même qu'on le fait. Et donc c'est comme si Jonathan avait pris pour lui tout le bien fait par David en battant Goliath à son peuple et à son père qui était mis en difficulté. Parce que, en fait, il y avait une forme d'humiliation pour Jonathan de voir que son père était pétrifié face à ce défi lancé par Goliath de dire « Envoyez un soldat et l'issue du combat déterminera l'issue de la guerre ». Ça devait être terrible en fait. Et dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, il est dit « Celui qui ramène un seul pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. » Donc c'est comme si Jonathan était rentré dans l'histoire comme adjuvant pour David et qui va tout faire pour, en scrutant le visage de son père, pour prévenir David afin qu'il ait toujours une longueur d'avance. Voilà, il va à chaque fois que Saül va dire blanc ou noir, il va trouver les moyens de prévenir David, il va faire des allers-retours, il va envoyer des messagers. Voilà, Jonathan joue ce rôle-là et le Christ qui est un des deux défenseurs que dans la Trinité, va jouer ce rôle avec nous de nous prévenir de plein de manières différentes, à travers des gens qui vont nous dire des choses, à travers des motions intérieures, on va être averti de certaines choses, on va être averti que le péché est tapé à notre porte, peut-être la vengeance ou autre. Alors le Saint-Esprit maintenant. Alors le Saint-Esprit, je pense qu'il est représenté par les différentes femmes qui vont s'attacher à David. Parce que c'est l'esprit aux sept dons, et David va avoir plusieurs femmes. Alors je vais en citer deux, mais en fait, pour les autres femmes, on pourrait faire la même lecture. La première, c'est Michal, fille de Saül. C'est lorsque David va obéir courageusement à Saül en allant se battre contre les Philistins. Saül lui dit « Je te donne ma fille ». Il lui donne même pas le choix. Il parle pas de Michal d'ailleurs, et il lui promet une autre fille. Il va pas tenir sa promesse. Il lui dit « Je te promets ma fille si tu me ramènes 200 prépuces de Philistins ». Donc tu abats 200 Philistins, tu leur coupes le bout et tu me les ramènes. Donc on imagine la mission impossible, et David va y aller. Et c'est suite à ça que l'autre fille de David va s'éprendre d'amour pour lui, en fait. C'est comme si cette obéissance, on retrouve l'obéissance de David qui va attirer irrésistiblement l'Esprit Saint en la personne de Michal, enfin symbolisée par Michal. Autre exemple, Abigail. Vous devez vous rappeler de cette histoire où, après que David ait fait preuve de bonté pour les bergers de Naval, il va envoyer 10 jeunes gens pour dire « Est-ce que tu pourrais, parce que je suis en fuite aujourd'hui, me donner un petit peu de ravitaillement, ce que tu as sous la main, parce qu'on est un peu mal ?» Et Naval, qui va être un impie et qui va être à moitié ivre, va les envoyer bouler. Et David, ça va le mettre dans une fureur pas possible. Et il va dire « Je vais... que Dieu me fasse ceci et encore cela si je n'ai pas pas tué tout ce qui urine contre un mur. » C'est-à-dire si je n'ai pas tué tous les mâles. On va retrouver le fait de s'attaquer à tous les... Et en fait, Abigail, qui va être l'épouse de Naval, va venir au devant de David avec des provisions en abondance et va se prosterner à ses pieds en disant « Pardonne, s'il te plaît, je ne savais pas que tu avais demandé ça à mon mari, pardonne-lui. » Et en fait, David va être touché par le cœur de cette femme. Et... ce qui est beau, c'est qu'elle va l'empêcher de commettre un meurtre, en fait, de devenir un meurtrier. C'est comme si l'Esprit Saint allait dire je ne vais pas permettre que cette personne qui lutte sans arrêt contre la colère soit vaincue par une faiblesse bête à un moment où en fait la colère va être vraiment trop forte parce qu'il sera mis en fuite et en plus celui qui l'a aidé va refuser de l'aider, va le mépriser et va lui parler comme un sot. Et voilà. Et donc Abigail va jouer ce rôle-là. Et on va voir aussi que par la suite, David va, en fait, le Seigneur va venger David parce que, en apprenant ça, le mari d'Abigail va mourir en quelques jours d'effroi. Et du coup, Abigail va devenir sa femme. Ils vont tomber amoureux. Grand 2, petit 11, la dernière partie. Comment se fondre dans cette masse, dans cette forêt de ronces qu'il y a aujourd'hui, en tirant parti de ces différents textes? Et en particulier, alors c'est ce que j'ai retenu de la lecture de l'histoire de David chez les Philistins, parce que je trouve que moi j'étais étonné de voir qu'il arrive à être invisible, enfin à collaborer avec des gens qui sont vraiment effroyables en fait, qui d'habitude sont décrits comme des personnes qu'il faut combattre et puis qui s'attaquent sans arrêt à Israël, quoi. Et alors je fais le parallèle avec aujourd'hui parce que ça répond à la question comment. Quand on est dans le monde hostile de l'entreprise, par exemple, comment on fait pour survivre, quoi. Premièrement, éviter de vanter ses qualités ou le travail qu'on a accompli. Parce que quand on va attirer l'attention des gens qui nous entourent sur « regardez ce que j'ai fait de bien », comme on va faire avec les gens de sa famille ou son conjoint ou autre, eh bien, en fait, ils vont être tentés d'être jaloux et de devenir comme Saül ou d'autres qui vont se dire « je vais perdre ma place, il va me faire de l'ombre, etc. » Deuxièmement, éviter de donner trop de détails sur ce que nous faisons ou sur ce que d'autres font ou que nous admirons. Éviter de rentrer dans certains détails qui vont attiser certaines colères. Parce qu'on ne sait pas ce qui mobilise le cœur des autres et peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent anodines mais qui vont provoquer des colères, en fait. Et voilà, ça risque de nous faire rentrer dans une spirale parce que l'autre, il va commencer à s'embraser sur un sujet et puis on va se dire « mince, pourquoi je lui dis ça ?» Troisièmement, de réussir à faire chaque chose pour le Seigneur. J'ai des témoignages autour de moi de un responsable d'entreprise, par exemple, qui va persécuter un salarié. Et du jour au lendemain, quand la personne dit « Seigneur, je t'offre mon travail au lieu… » Parce que avant, je faisais mon travail pour en voulant faire plaisir à mon chef. Et ben depuis que j'essaie de dire « Je vais faire ça pour toi, Seigneur, et pas pour mon chef. » Même si, in fine, c'est aussi pour mon chef, mais c'est d'abord pour toi, Seigneur. Le chef, en fait, est content de son salarié. En fait, voilà, il y a des gens qui m'ont témoigné ça. Et en fait, une des prières, par exemple, c'est par exemple, bah, Seigneur, viens compléter ce que j'ai fait, viens répandre ton sang précieux sur ce que j'ai fait, viens placer le voile de la Vierge Marie sur ce que j'ai fait, pour que tout ce que j'ai fait soit comme un sacrifice pour Dieu et pas pour mon chef. Pourquoi ça se passe comme ça? Je pense que spirituellement, c'est comme si on donnait à notre chef, quand on dit « je fais ça pour mon chef », spirituellement, c'est comme si notre chef, il avait un poids qu'on lui donnait, mais un poids un trésor, en fait. Et un bon chef saura utiliser ce trésor, ça va être des grâces dont il va servir pour avoir des idées, de la force, pour bénéficier de notre travail. Mais comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont épineux, ces grâces qu'ils ont, ça va être comme une énergie anormale qu'ils ont, et ils vont l'utiliser pour nous nuire et nuire aux gens. Vous voyez, ils n'ont pas la force qu'on leur donne ces choses, ces grâces, qu'on dit je fais ça pour mon chef. En fait, on leur donne quelque chose dont ils vont mal se servir. Il n'y a que le Seigneur, en fait, qui va vraiment réussir à se servir de ces choses-là, quoi. Quatrièmement, bah, c'est travailler sur la rancune, comme on l'a vu, hein. Quand on laisse les ronces croître, les autres vont, dans n'importe quelle discussion, vont détecter qu'on a un visage en flamme, ou ce chien qui est tapis à notre porte va nous faire passer à l'acte à la première occasion. Par exemple, on va penser du mal de quelqu'un et dès qu'on va parler de la personne, boum, on va commencer à critiquer. Donc un élément déterminant, ça va être, dans ce quatrième, de trouver au moins, de se focaliser sur la chose positive, en fait. Je ne me mets pas en campagne contre quelqu'un. Je n'entreprends pas un sujet où je vais rentrer en conflit avec quelqu'un si je n'ai pas trouvé au moins une chose positive chez la personne que j'affronte. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire aussi dans la politique. D'arriver à s'émerveiller de manière simple. Ah ben, un tel. On a une fille tout à l'heure, elle était en train de lire les programmes électoraux. Elle me posait des questions. Elle avait commencé par Marine Le Pen parce qu'elle avait une jolie, parce qu'il y avait un poney, en fait, sur la deuxième page. Et en fait, je trouvais ça drôle parce que, en fait, moi j'ai essayé de répondre de manière extrêmement simple, en fait, sans parler des préjugés qu'il peut y avoir par rapport à tout ça, sans parler des colères que ça peut déclencher. Parce qu'en fait, on devrait avoir cet émerveillement d'un enfant qui dit « Ah tiens, moi je voterais bien pour lui », parce qu'après il a sorti l'image de quelqu'un d'autre avec des lunettes, je sais plus qui c'était, mais parce qu'il avait un beau sourire, et donc il a dit « Je vais dire celui-là en deuxième ». Et voilà, je trouve ça beau d'arriver à s'émerveiller même de choses qui semblent banales, quoi. Elle m'a dit « Oui, moi aussi, mon délégué de ma classe, il s'est fait élire parce qu'il avait mis une image d'un footballeur sur son affiche ». Effectivement, à l'inverse, tourner en boucle sur la chose qui nous énerve, ou alors ou prendre un exemple chez quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui a fait en disant « j'ai le droit d'eux parce que… » Mais en fait, on n'a pas forcément idée de la souffrance de la personne à qui on se compare et qui va peut-être avoir certains droits ou certaines choses qu'on n'a pas, parce qu'elle aurait eu des souffrances qui correspondent aussi. Ça peut être une manière de, si on n'arrive pas à s'émerveiller d'un point de la personne, de dire bah, « peut-être que la personne elle a une plaie, une lèpre, un lot de souffrances que je n'ai pas ». Et que, en fait, moi qui l'envie, cette personne qui me suscite de la colère, peut-être que si je voulais être parfaitement juste, il faudrait que je mette toutes les circonstances. Et est-ce que je serais prêt à porter la chose lourde qu'elle porte? Cinquièmement, centrer notre pensée sur notre but, d'arriver à se focaliser sur quel est mon objectif et de dégager tout le reste. Alors, je vais donner un exemple. Mon chef persécute ma collègue et ça m'énerve, parce que j'aime beaucoup ma collègue et je trouve ça effroyable que mon chef… Et d'ailleurs, il gagne beaucoup plus que moi. Bon, bah dans ce sujet-là, moi il me semble que le « il gagne beaucoup plus que moi », on devrait l'exclure parce que c'est pas le sujet. Si je veux me dresser contre mon chef parce que je trouve que je suis pas assez payé, c'est un autre sujet. Mais si je veux prendre la défense de ma collègue, si je fais rentrer dans mon cercle intellectuel, enfin dans mes pensées, le fait que, enfin quelque chose qui est étranger au sujet, que mon chef gagne plus, ou qu'il a une grosse voiture, ou qu'il a eu un air méprisant en parlant à une autre personne, ça ne va faire que me polluer dans ma réflexion, quoi. Et quand je vais vouloir me dresser, je ne vais pas le faire pour des bonnes raisons. Sixièmement, le fait de tenir tête à quelqu'un qui est enflammé de colère est dangereux. On l'a vu, la Bible décourage d'attaquer Édom. Hein, il faut faire le tour de la montagne, il ne faut pas l'attaquer. Et si la moindre parcelle de colère chez nous, on risque de s'enflammer tous les deux fois plus. Et d'en venir aux mains ou de faire des choses qu'on va regretter. Justement, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23, il est dit « Les Voriens sont tous comme l'épine qu'on rejette. Ne les attrape-t-on pas par brassée ? L'homme qui y touche, au Vaurien, se barde de fer et de bois de lance, et ils sont brûlés sur place. » C'est pour ça qu'il y a une manière assez simple, en fait, de braver ça. Je voudrais parler à quelqu'un, et je sais que c'est un sujet qui suscite de la colère chez moi. Il existe dans la Bible des prières contre Édom, qui est ce peuple spécifique de la colère, les descendants, en fait, de Caïn, enfin, spirituels de Caïn, qui était en colère contre son frère. Quand on prie ces prières, on les lit simplement, de préférence à voix haute ou au moins en bougeant les lèvres, en fait, ça va nous enlever toute colère. On va être quasiment dans l'incapacité de se mettre en colère quasiment dans la journée qui suit. Et c'est vraiment extraordinaire. Je veux vraiment vous le témoigner. Je ne donne pas les références ici, enfin, vous les trouverez sur les sites des deux témoins, dans la section prières, oracle des nations, il y a des pages à imprimer. Voilà, je sens que je vais devoir parler à quelqu'un sur un sujet où il risque de me mettre en colère. Et j'ai eu le cas l'autre jour, c'était quelqu'un je savais qu'il était en colère, cette personne. Et j'ai fait ses prières contre Édom. Et la personne, en fait, n'a pas, en fait, elle s'est défendue en abordant des sujets qui d'habitude me mettent en colère. C'est incroyable, en me disant, mais et ça, mais c'est des sujets qui n'avaient rien à voir. Et d'habitude je me fâche tout rouge sur ces trucs-là et je pars comme une flèche en argumentant parce que les trucs qui nous mettent en colère on se met à parler et en fait on perd de vue notre objectif. Les prières contre Édom, pour essayer. Septièmement, David savait comment interroger le Seigneur. Il revêtait cet éphod. Alors de quoi s'agit-il? C'est un vêtement sacré de prêtre où sont enchâssées des pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Pour nous, cela va signifier, par exemple, quand je m'interroge toujours et que je veux savoir ce que le Seigneur pense de ça, ça va être faire une prière en conformité avec ce que nous apprend l'Église. Par exemple, le chapelet. J'ai remarqué ça récemment. Le chapelet commence par un « Je crois en Dieu » qui est la prière de la foi de l'Église. C'est comme si on avait les 12 tribus d'Israël qu'on se mettait sur nous. Et puis après, le Notre Père, la prière qui a enseigné Jésus, la prière par excellence. Et puis après, le Je vous salue Marie, qui est la prière de la tradition par excellence depuis un certain nombre de siècles. Et puis le Gloire au Père, qui est la prière par excellence qui rend honneur à la Trinité. Et en fait, voilà, c'est comme si on revêtait un habit de prêtre pour avoir toutes les cartes en main pour discerner. Donc ça peut être une messe, ça peut être les sacrements, ouvrir la parole de Dieu quand on sait l'interpréter, le fait de prier en union avec des personnes, la communion des saints, comme a fait Judith. Donc en fait, ça va nous faire profiter de la force spirituelle de ceux qui ont plus de force que nous. On se sent affaibli parce qu'on est troublé, on commence à être en colère. Eh bien, on va prier en union avec l'Église, par exemple, ou avec nos frères juifs, ou avec d'autres mêmes confessions religieuses, pourquoi pas, ou en union même avec la bonne volonté des agnostiques et des athées. En fait, du moment qu'on s'unit à d'autres personnes, on va bénéficier d'une partie de leur force spirituelle dans ce combat où on manque de force. Voilà le fait de revêtir l'éphod. Et donc toujours le fait d'interroger le Seigneur, d'arriver à mettre des points d'arrêt dans notre action, de sentir quand il va falloir faire une réponse à quelqu'un avec qui on est en lutte. Toujours en demandant au Seigneur d'avoir la paix avant de faire la moindre chose, qui est une attaque contre quelqu'un, comme Néhémie, en fait, qui laissait des silences. Et quand on parle avec quelqu'un et on sent qu'il y a de la colère, le fait de laisser des silences, ça nous donne une longueur d'avance pour baisser d'un cran et enlever les flammes de notre visage, quoi. Petit 8, moi j'aurais dit de se faire aider, comme fait David, par ceux qui vont nous conseiller, mais pas des gens qui ont une propension à la colère. Donc par exemple, si je suis en colère contre le masque, si je vais voir quelqu'un qui est aussi en colère contre le masque, ou si je suis en... Enfin voilà, d'essayer d'aller voir des gens qui vont être plus apaisés que nous sur le même sujet. Parce que la propre de la colère, c'est que souvent on va chercher des gens qui sont en colère aussi, et comme ça va nous conforter. On va dire, ah ouais, je sens qu'il y a quelque chose en moi là qui brûle parce que je suis encore plus en colère, vu que la personne aussi elle est en colère, ça va me conforter, ça va me donner une conviction, parce que je vais ressentir quelque chose en moi qui est vrai, qui est que j'ai de la colère. Mais en fait, c'est pas un vrai critère de discernement. Le critère, c'est plutôt quand j'ai la paix, j'avance. Voilà, et dernier point, ben c'est comme a fait David, de dire, peut-être que ce qui m'arrive, c'est aussi parce que j'ai des imperfections que le Seigneur veut corriger. Cette période qui se passe avec toutes ces choses angoissantes et toutes ces colères qui nous sautent dessus, qui veulent s'agripper à nous, ben c'est peut-être aussi le Seigneur qui veut qu'on avance, qu'on guérisse, et qu'en fait, en faisant ces petites choses du quotidien, ces petits actes de dire je pardonne, fais attention quand je parle du responsable ou de mes parents ou de mon curé ou de mes enfants, de mettre un soin particulier à ne pas dire du mal, à ne pas nommer le mal, à ne pas rapporter quelque chose de mauvais sur ces personnes, surtout ces personnes pour qui il y a une forme de circonstance aggravante par rapport à nos enfants, nos parents, notre responsable, je vais vraiment faire attention pour qu'il n'y ait pas une colère qui s'accroche à moi, quoi. Et normalement, en suivant l'exemple de David, on devrait nous aussi briller comme les astres dans l'univers. Voilà, merci.